Ce qui compte pour un acteur, c'est la personnalité, sa présence.
Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis.
Je m'appelle Berlin Noël et j'aime bien les yens.
Come on, guy. Who be sweet with me.
C'est tellement intéressant de voir la réaction des spectateurs à qui on peut déplaire. J'aime bien frôler les catastrophes.
Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
On a tout vu.
Allez, action!
Action, pour quoi faire?
Raconter ce qu'une image réelle ne pourra jamais relater. Exprimer par le trait, le dessin, la force d'un destin. C'est l'ambition de nos invités ce matin, deux hommes, auteurs de deux grands films très animés. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, allez, bienvenue à toutes et à tous.
Il s'appelait Josep Bartoli, artiste catalan. Il a fui en 1939 la dictature franquiste et s'est retrouvé incarcéré en France pendant deux ans dans sept camps différents. Bonjour Aurel.
Bonjour.
À travers son portrait et ses dessins dans les camps, vous avez témoigné d'une séquence historique peu connue et assez honteuse de notre histoire. Résultat, ce film dessiné, sélectionné à Cannes, Josep, sort mercredi prochain. Elle a inventé sa vie et il lui a inventé une jeunesse. Bonjour Rémi Chaillet.
Bonjour.
Dans votre film d'animation Calamity, une enfance de Martha Jane Canary, vous imaginez comment cette petite Martha Jane est devenue la grande Calamity Jane, un récit initiatique truffé d'aventures, une conquête de l'Ouest et de la parité. Calamity, grand prix au Festival d'Annecy, sur nos écrans le 14 octobre prochain. Enfin, les sorties de ce mercredi entre Ondine et Les Apparences, Pierre Cardin, un jeune moine au Bhoutan, Stript et ailleurs. C'est parti.
1939, ça te dit quelque chose?
Bah évidemment, c'est le début de la 2GM.
Et à quoi?
Deuxième guerre mondiale.
Mais non, hein. La France est entrée en guerre en septembre. Moi, je te parle de février 39. Oh, tu m'aurais pas reconnu à cette époque-là. Quand Barcelone tombe, 500 000 réfugiés cherchent un abri en France. On les parque dans des camps de concentration. Tu crois qu'ils méritaient ça?
Quoi?
Les camps de concentration. Pas d'eau potable. Pas de docteur. La gale, le scorbut, le typhus. Et la famine. Ah, c'est terrible d'avoir faim.
Un grand-père, ancien gendarme, raconte un épisode de l'histoire et de son histoire à son petit-fils, février 39, 500 000 Espagnols fuyant le franquisme parqués en France dans des camps, parmi eux Josep Bartoli, artiste, dont vous avez découvert l'existence, Aurel, sur un dessin, un homme, sur des béquilles, blessé et presque mort.
Exactement, exactement. Ce dessin faisait la couverture du livre de Georges Bartoli, oui. Le neveu de Josep, oui. Qui avait consacré un livre récit à l'histoire de ses exilés, de sa famille, de ses parents et de son oncle Josep, qu'il avait illustré avec nombre dessins de Josep, réalisés pour l'essentiel dans les camps. Et notamment ce fameux dessin d'un unijambiste en couverture.
Dessiné contre l'oubli, pour décrire l'horreur, pour décrire la condition de tous ces hommes et toutes ces femmes dans les camps.
Oui, tout à fait, mais je pense en premier lieu dessiner pour survivre.
Oui.
Parce que je pense vraiment que Josep, quand il dessine dans les camps, il le fait par nécessité vitale, avant même de le faire par souci de témoignage.
Mais donc, il ne sait pas si le témoignage pourra...
Exactement. Ceci étant, en gardant toujours à l'esprit que ça peut quand même servir de témoignage, c'est un dessinateur de presse, il a ce souci du compte-rendu, de l'observation et tout ça. Donc, il fait tout pour garder les dessins sur lui, malgré toutes les péripéties qu'il va vivre pendant ces deux ans autour des camps. Il va toujours réussir à garder ses dessins avec lui. Mais je suis intimement persuadé, et pour en avoir parlé avec Georges Bartoli, son neveu, que Josep appartenait à cette famille de dessinateurs qui dessine par besoin avant tout. Bien sûr qu'il était politisé et ô combien, et qu'il avait un œil avisé en tant que dessinateur de presse et qu'il choisit les thèmes qu'il dessine. Il y a eu d'autres dessinateurs dans les camps. Il y a eu d'autres dessinateurs qui étaient même des très bons dessinateurs, mais quand on voit leur travail, c'est de l'illustration. C'est esthétique, c'est beau, mais ça n'a pas la puissance évocatrice des sujets que choisissait Joseph. Donc c'est pour ça qu'on est dans un entre-deux. Il y avait ce besoin de dessiner, mais il y avait aussi la puissance du choix des sujets pour qu'ils peuvent servir de témoignage par la suite.
Aurel, vous êtes français?
Oui.
Vous n'avez pas de racines espagnoles?
Absolument pas.
Qu'est-ce qui vous
que je sache.
Oui, mais qu'est-ce qui vous touche à ce point? Bien sûr, cette histoire est un épisode pas forcément connu de tous, ces Espagnols dans les camps en France, une histoire un peu honteuse de la France. Mais qu'est-ce qui vous touche à ce point avec lui? Le fait que vous soyez tous les deux dessinateurs, le trait, le quoi?
C'est d'abord le trait, évidemment, et ce qu'il raconte. Après, moi-même, l'histoire des camps, quand je découvre le travail de Joseph, j'en entends n'est que très vaguement entendu parler parce que j'habite dans le sud de la France, pas très loin de là où ça s'est passé. Mais c'est pas du tout quelque chose de connu, même à l'époque. Il y a 10 ans, quand je croise ce dessin-là, l'histoire des camps n'est pas très connue, même localement. C'est vraiment, moi, je suis hispanophile depuis l'adolescence. Je m'intéresse beaucoup à la guerre d'Espagne depuis cette époque-là, Land and Freedom de Ken Loach.
Oui.
C'est par là que j'ai découvert la guerre d'Espagne.
Par le cinéma,
exactement, ouais. Comme quoi. Hein.
Oui.
Et quand je vois ces dessins, cette puissance du dessin qui touche au reportage dessiné, qui est un autre aspect du dessin que j'aime bien pratiquer dans le dessin de presse, qui sur cette thématique-là et avec cette force de témoignage et cette force d'émotion, parce que le trait de Joseph, il est à la fois très juste, très presque réaliste, mais en quelques traits, en quelques accidents, en quelques intentions, il éditorialise énormément ce qu'il raconte. Et cette force-là me happe littéralement dès le début.
Alors pour montrer la brutalité donc de cette époque et des gendarmes, également de la présence des tirailleurs sénégalais.
Oui,
qui étaient là en tant que protecteurs des camps,
supplétifs, et puis parce que c'était les soldats coloniaux et les républicains espagnols en avaient très très peur, les craignaient beaucoup parce que ils venaient de la guerre d'Espagne où ces tirailleurs-là étaient du côté franquiste et étaient violents vraisemblablement.
On écoute un extrait.
Un jour tu tresses la corde, un autre tu pends le cochon, entre les deux tu courbes l'échine.
Des messes basses entre un négro et un rouge. Décidément, on aura tout vu.
C'est du vol.
Nous fais pas chier, hein.
Voler un profiteur, c'est pas du vol. Profiteur, tu comprends? Pourquoi la France, elle devrait vous nourrir et vous héberger? Renclure, communiste.
Moi, pas communiste.
Calmos, Léon, tout doux.
C'est qui me fait tourner le sang boudin, lui, hein.
Il a pas encore compris qu'il a tout perdu. Même le droit de vivre, si je veux. Même ça, tu l'as perdu, sale métec.
Vas-y, Léon, donne.
Donne. Alors, nos passaranes, va foutre ça dans le coffre de cette voiture. Une belle journée comme ça, la gâcher par des bijoux de famille étalés sur la chaussée. Ce serait dommage, non?
Cet affreux gendarme raciste, c'est bien sûr la voix de François Morel.
Lui-même.
Rien à voir.
En fait, on pourrait dire trait pour trait. Les traits de Bartoli et le vôtre. Vous dites d'ailleurs, pour raconter une histoire avec quelque chose qui n'existe pas dans la nature, il n'y a que le trait pour ça. Le trait, c'est une démarche intellectuelle complexe que de gommer les volumes et de les représenter par des lignes absentes de notre univers. C'est très philosophique, en fait.
Mais c'est la magie du dessin, c'est ça, c'est que un enfant, dès qu'il prend un crayon et un papier et qu'il commence à dessiner des bonhommes, il va dessiner quelque chose qui n'existe pas en réalité, c'est-à-dire la ligne de contour entre l'objet et le fond ou entre la personne et le fond. C'est intellectuellement une démarche assez complexe et pourtant c'est la première chose
dans la vie
faire.
Dans les vues, on n'est pas entouré comme ça, on a
exactement quand on observe autour de nous, on ne voit pas une ligne autour des objets et pourtant le dessin c'est ça. Donc par principe, le dessin est quelque chose qui est totalement en décalage avec la réalité puisque la façon même de représenter les choses est abstraite.
Le raccourci du trait pour raconter le monde dans sa complexité, c'est une grosse ambition, ça.
Oui, bah, j'étais très ambitieux au moment où je l'ai écrit.
C'est une parole de dessinateur de presse aussi, quand même, de quelqu'un qui croque l'actualité, le réel.
Oui. J'ai du mal à vraiment comment dire, me plonger, d'écrire vraiment précisément ça, mais c'est évident que l'approche dessinée est une manière de représenter l'actualité, de représenter le monde, qui permet une distance, évidemment, et qui permet aussi certaines libertés qu'on peut pas se permettre avec d'autres outils, même sans parler d'humour. Il est pas rare que quand j'illustre un papier, par exemple, dans Le Monde, je vais pas forcément user de l'outil humour pour faire mon illustration, mais si je discute avec le journaliste et que je décide de m'emparer du sujet jusqu'à un certain point qui peut être un sous-entendu dans son article, moi, je vais avoir le droit d'aller jusque-là dans le dessin en mettant en image un sous-entendu que ne pourrait pas se permettre le rédacteur.
Ce sera du surentendu.
Exactement.
Il y a une concordance des temps quand même, parce que par rapport à ce qui s'est passé à cette époque-là et ce qui se passe maintenant avec les migrants, je suppose que vous vouliez aussi faire passer ce message-là.
Oui, c'est pas le moteur principal du film, bien évidemment, mais c'est évident que ça nous intéressait d'autant plus de raconter cette histoire. Un, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une histoire méconnue de l'histoire française, c'est un pan méconnu de l'histoire, mais aussi parce que ça fait énormément écho à des choses très contemporaines, et notamment en effet sur les migrants. Enfin, tous les jours, on voit des infos qui nous disent que on interdit ou on verbalise des gens qui donnent à manger aux migrants, on empêche des migrants de poser leur tente à tel ou tel endroit dans Paris, et etc. etc. Il faut se rappeler qu'à l'époque, c'est 500 000 personnes qui passent pour une France de 45 millions de personnes. Aujourd'hui, nous sommes 67 millions, et dès qu'on essaye d'avoir 2000 Syriens, ça paraît hyper compliqué. Donc voilà, j'espère pouvoir, que le film puisse permettre de mettre en perspective ce genre de choses.
Et puis aussi de relais avec une autre génération, puisque ce gendarme raconte à son petit-fils cette histoire. Ce gendarme qui représente un peu l'aide qui va être apportée qui n'a pas existé, mais l'aide qui va être apportée à Joseph Bartoli. On va écouter ce très bel extrait où il aide Bartoli à enterrer un de ses amis dans le camp.
Pas de croix non plus ? Ah oui, c'est vrai, vous, les anarchistes, vous croyez pas en tout ça?
Lui, anarchiste. Pas moi.
Et c'est vrai, tout ce qu'on raconte sur eux?
Si tu ouvres la porte à des chiens hambrientos, fais attention aux dents, ils mordent. Pero si tu cherches à les mettre encore en cage, luego se vuelven locos. C'est ce qui s'est passé. Nous mourions de hambre. Tu comprends?
Oui, mourir de faim. Affamé.
Ouais, affamé de la faim, affamé de la liberté, affamé de la vie. Alors quand Franco a voulu nous remettre en cage, il y en a qui ont perdu la raison. Ainsi que si, des églises brûlées, des nonnes, des curés, assassinés. En une guerre, à l'ennemi se le mata ou te mata. Avant tout ça, je ne croyais pas déjà en Dieu. Alors, après ça, si l'âme, elle existe, c'est comme une belle idée. Ces idées qui ont porté, moi, lui, tous, le communisme, l'anarchisme, la République, ces belles idées,
si elles ne rencontrent pas une belle personne, ça devient la mort.
Et dans cette scène, on entend bien sûr les voix de Sergi Lopez et de Bruno Solo. Rémi Chaillet, vous avez vu le film d'Aurel.
Oui, j'ai beaucoup aimé, j'étais très ému. Enfin, j'ai découvert le boulot d'un dessinateur que je connaissais pas, ce Bartoli là.
Oui.
J'ai trouvé la puissance de son trait effectivement impressionnante. Et j'ai aussi été vachement intéressé par le fait que ça se passe avant la déclaration de guerre. C'est février 39, je crois, c'est ça.
Oui,
ça démarre en février 39. Et puis il y a cette langue, il y a ces dessins qui sont super forts. Enfin ouais, ça m'a vraiment beaucoup bousculé, ému. Et je voulais dire autre chose, mais je l'ai oublié.
Rémi, Aurel, vos films, c'est un peu l'opposé l'un de l'autre.
Et oui, c'est assez rigolo parce que le film de Rémi a cette particularité graphique qu'on voyait dans son précédent film, d'enlever le trait et de garder les masses de couleurs et d'animer beaucoup. Et dans Joseph, c'est exactement le contraire. Je me suis basé que sur le trait en enlevant la couleur à certains endroits ou en la limitant énormément et en animant très peu. Donc c'est très complémentaire.
Oui, mais c'est rigolo. Ce qui est drôle, c'est que tu nous vois comme animé beaucoup, alors qu'on est plutôt dans une économie d'animation plutôt à la japonaise, on va dire, par rapport à la norme qui serait la norme américaine. Mmh. Où ça bouge tout le temps, les caméras bougent tout le temps, les personnages s'expriment beaucoup en bougeant tout le temps. Et nous, on est dans une façon japonaise plutôt d'économie de dessin pour pouvoir travailler dans nos budgets. Mmh. Mais c'est vrai que par rapport à ton film qui lui est dans le dessin pur. Enfin, on a des phases où c'est juste quelques pauses comme ça qui expliquent ce qui se passe.
Puis la couleur. La couleur qui est chez vous extrêmement présente, ouais, quand même. Ouais. C'est un film de coloriste,
ouais.
On peut dire.
Ah oui, carrément. Hein. Oui, mais
dans ton film aussi, il y a le côté. Ce que je veux dire, c'est que l'animation est le vrai médium de mouvement est le vrai médium de travail. Quand moi, vu que je ne le maîtrisais pas, bah, j'ai tout fait pour m'en éloigner.
c'est ça, d'ailleurs, que je voulais dire tout à l'heure. C'est ça, ce que j'ai trouvé vachement malin dans ton film, c'est ce rapport entre. On parle d'un dessinateur et on est en permanence dans le dessin. C'est-à-dire le fait de voir si peu d'animation fait qu'on regarde les dessins plus que l'anime, alors que chez nous, on voit les personnages qui bougent et effectivement, on évite qu'on regarde trop le dessin. Alors que toi, tu assumes le fait qu'on voit les dessins.
D'ailleurs, combien de dessins, Aurèle ?
Moi tout seul, j'ai fait donc ces dessins qui ne bougent pas qu'on m'a demandé de faire parce que c'est la partie de la mémoire du grand-père sont des dessins très inspirés de ce qu'est le dessin de presse qui nécessite de résumer une action ou un mouvement dans un seul dessin et ça les équipes technique de l'animation me disait on ne sait pas faire, c'est pas notre approche du dessin, donc ils m'ont demandé de le faire et j'ai fait toutes les poses de personnages des 750 plans de mémoire.
Bien, alors 750 plans dans un très beau film qui s'appelle donc Josette, qui sort mercredi prochain, mais maintenant on va passer à autre chose.
Nous sommes dans l'Ouest ici, quand la légende dépasse la réalité, on publie la légende.
Voilà, cette fameuse réplique de l'homme qui tua Liberty Valance de John Ford pourrait s'appliquer à votre film, Rémi Chaillé. Imprimer la légende d'une figure légendaire de la conquête de l'Ouest américain, Calamity Jane, dont vous avez imaginé la jeunesse et donc les prémices de ce qu'elle allait devenir. Dans ce film, Calamity, une enfance de Martha Jane Canary. La vraie Calamity a inventé sa vie, alors pourquoi pas lui inventer une enfance ? En gros, c'est ça l'idée.
C'est exactement ça. On a fait une fiction avec deux bornes historiques qui étaient connues. Le reste est absolument inconnu. On est allé voir les historiens qui ont vraiment essayé de chercher toutes les traces possibles de sa vie. Et bon, c'est un immense nuage de mensonges, de chansons populaires. Sa sœur a menti. Les lettres à sa fille sont un faux littéraire. Elle ment. Elle écrit sa propre biographie. Elle raconte des salades. Enfin, c'est tout. Il faut faire son chemin là-dedans. Et puis nous, on a trouvé donc ces deux éléments qui sont le départ du Missouri de la ferme pour une histoire d'héritage. Sa famille font un procès aux parents de Calamity. Et puis cette trace historique qui à Virginia City, après une rue vers l'or, les trois enfants canaris sont en train de mendier. Voilà, donc on s'arrête juste avant le démarrage de la tragédie, on va dire, le moment où sa vie va basculer vers un peu.
Et la mère est morte juste avant cette.
Alors on sait pas trop quand. Nous on a inventé le fait qu'elle était morte avant. On n'est pas vraiment sûr de quel moment est morte la mère. Mais on l'a fait mourir avant. Et on dit que c'est pour ça qu'ils ont mis 2 ans, parce qu'en fait la route de l'Oregon, faut expliquer que la route de l'Oregon c'était cette route que prenaient les pionniers pour aller d'est en ouest, qui est une piste en fait, c'est pas une route. Hein, il y avait pas de asphalte et des bornes. C'était des fois des guides qui étaient publiés où on disait allez jusqu'au grand rocher là-bas machin, vous tournez à tel coin de la rivière, enfin voilà, c'était des guides qui aidaient les pionniers à avancer et ça mettait 6 mois. On partait en mai et on arrivait en septembre, fin octobre, avant les premières neiges, quoi. Il fallait se dépêcher, quoi.
Il fallait dessiner et peindre ces grands paysages et ces rocheuses qui apparaissent petit à petit.
C'est ça.
Vous êtes allé là-bas ?
Non, malheureusement. Malheureusement,
j'ai
pas pu.
Vous êtes inspiré de western,
On s'est inspiré beaucoup de western.
C'est un western, ce film ?
Oui, c'en est un. Si à la base, je m'en défendais, mais c'est
pourquoi ? Pourquoi ça vous plaisait pas ?
Le western, enfin, moi, je l'associais bêtement, un peu simple, de manière trop simple, je l'associais à la vengeance. France, à faire justice soi-même, au duel dans la rue et aux villes rues comme ça avec des frontons à la Lucky Luke. Donc c'était vraiment de cette imagerie-là dont je voulais pas. Par contre, voilà, si. Alors maintenant, je me suis un peu plus cultivé dans le monde du western. J'ai regardé le sous-genre des films de convoi. Enfin voilà, puis j'ai vu des westerns psychologiques, psychédéliques, machin dans tous les sens. Enfin voilà, dès que ça se passe dans cette époque-là, on peut appeler ça un western.
Alors le père de Calamity, enfin de Martha Jane, va se blesser. Du coup, elle va devoir le remplacer pour conduire la carriole, bien sûr instruite par un garçon.
Je peux essayer ?
Tu n'y arriveras jamais. Tout est dans le coup de poignet. Pour tourner à droite, tu tires à droite. Donc pour tourner à gauche, tu tires
à droite ?
Mais non, à gauche.
Laisse une fille te guider.
Attention !
Et alors, les gosses ? Vous regardez où vous allez ?
Désolé, monsieur, c'est elle, elle fait n'importe quoi !
Dis donc, sale menteur, t'es pas gêné ! Et pour descendre en marche, tu sais comment on fait ?
Hein ?
Et ouais, girl power. Comment la représenter en dessin? Le producteur, moi j'ai lu ça, il voulait qu'on lui rabote un peu le nez, qu'on essaie de la rendre jolie. C'est pas le but du jeu.
Non, mais ça il va être triste qu'on ait retenu cette anecdote.
Bah, oui, mais
non,
bon.
Non, c'est un film, c'est forcément des débats entre sur le graphisme et sur tout ça. Donc là, en l'occurrence, c'est vrai qu'à un moment, j'avais fait des dessins et notamment pour le pilote où elle avait un gros pif. Et voilà, on a cherché parce qu'il avait des retours des investisseurs. Il s'agit de trouver 8 millions pour faire le film. Il
y
avait des retours d'investisseurs qui disaient quand même elle est un peu moche, voilà, etc. Donc à un moment j'ai écouté et je lui ai fait un petit nez en trompette. Et c'est là pour le coup c'est mes collègues qui me sont tombés dessus, Maïlys Valade qui m'a dit mais qui est storyboardeuse et qui m'a dit mais qu'est-ce que tu fais et tout. Il y a que les jolies qu'on doit d'être des héroïnes,
ça,
voilà,
ouais.
Et qui a insisté pour qu'on garde
son
caractère.
C'est une femme qui a dit ça, bien sûr. Elle est bourrue, affirmée et tout cela doit transparaître dans son visage et son allure. Mais c'est important, on imagine des gros sourcils, par exemple.
C'est ça, c'est le monosourcil qu'on lui fait, qui lui fait un regard un peu comme peu buté. L'idée de base, c'est quand même de créer des modèles alternatifs pour les jeunes filles et pas seulement pour les enfants. De dire, voilà, il n'y a pas que des princesses jolies qui sont des héroïnes, quoi. Et donc, on a le droit d'être bourru, on a le droit d'être grossière, on a le droit d'être colérique quand on est une fille. Et l'élégance ne vient pas avec les gènes, quoi. Et donc, c'est vraiment de ça dont parle le film. Et donc, il faut que ce soit cohérent aussi avec le visage. Et cette gamine est adorable. Enfin, on finit le film. On est avec elle, on l'aime beaucoup, quoi.
Mais c'est assez proche visuellement quand même de ce qu'était Calamity Jane, manifestement, qui est quand même pas Vénus.
Oui, c'est ça, je suis parti. Voilà, voilà. Un gros pif, ouais. Elle était trapue.
On les voit sur la photo, il y a une photo, on voit.
Mais je suis parti de base, au début, je suis parti de ces photos-là qu'on a, parce qu'elle adorait se faire prendre en photo.
Ah oui,
c'était son kiff. C'était ça qu'elle est avec des uniformes improbables, des trucs. La première photo qui existe d'elle, enfin, ce qui lance sa carrière, c'est elle s'est déguisée en soldat.
Oui.
Elle est adossée à un rocher comme ça. Et cette photo fait le tour de tous les journaux parce que il y a un truc incroyable, quoi, une femme déguisée en soldat.
Mais Rémi, vous vous rendez compte quand même que c'était d'être une femme à cette époque-là?
Ah, ça devait être chaud.
Non, mais ça devait être très chaud quand même. Oui. On comprend qu'elle transforme ça en légende, qu'elle mente, etc. Pour affirmer ça, c'est extraordinaire comme destin.
Et puis
non
ce qu'elle osait faire. Elle rentrait dans les saloons. On n'imagine pas la violence de ce que devait prendre une femme quand elle rentrait dans un saloon à l'époque. Elle devait se faire sortir violemment. Elle poussait la porte, elle gueulait plus fort que les cow-boys, elle picolait aussi plus fort que les cow-boys, donc elle les couchait sur ce truc-là. Je pense qu'elle avait de la voix, donc elle devait vraiment brailler très fort et elle racontait des histoires. Et donc nous, on a repris ces éléments-là pour en faire voilà une gamine qui, comme à la Tom Sawyer, quoi, qui se sert du récit pour se sortir des histoires, pour capter son auditoire et puis pour essayer de hop de faire passer l'attention sur autre chose.
En fait, votre film doit être assez proche, presque, de son enfance à elle. Non, mais j'imagine qu'elle a porté très jeune le pantalon comme la petite.
Avec Fabrice De Costil et Sandra Tozzello, les scénaristes, on a essayé d'être plus proche en permanence de sa vie réelle, d'une espèce de l'idée qu'on s'en est fait en lisant le maximum de biographies sur elle, d'histoires, etc. Et on essaie d'être fidèle, comme on fait une fiction entre ces deux bornes historiques, comme on fait une totale fiction, on invente tout, mais on essaie d'être le plus fidèle par rapport à l'histoire de ce qui s'est passé après, par rapport à ce qu'on imagine de son caractère, par rapport donc on se sert de tout, quoi, tout ce qui a pu être dans sa vie plus tard, on le transpose au maximum dans son enfance.
Cette petite fille frondeuse qui doit affronter donc ce Abraham, le représentant de cette société. On écoute un autre extrait.
Encore toi, crasseuse ! Mais qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux ? Et c'est quoi ce pantalon ? Mais quelle calamité !
Ils étaient trois contre elle.
Où ça va ?
C'est elle qui a commencé !
C'est elle qui a commencé !
Tiens ! Ça t'apprendra à ricaner quand je te parle ! Dépêche-toi ! T'as intérêt à tenir ta fille. Je ne tolérerai jamais une telle tenue dans notre communauté.
Oui, Aurèle, vous disiez, par rapport à la musique de vos deux films, d'ailleurs...
Oui, que c'est, dans les deux cas, c'est des compositrices qui ont composé la bande originale du film, ce qui est très très rare en cinéma, de ce que je crois savoir.
Ouais, c'est 1 ou 2%. Moi, vous êtes, un rapport de...
D'ailleurs, vous êtes soucié de la parité, vous, dans votre production.
Alors, on a essayé, non, on n'est pas tout à fait... Ça dépend, la parité, c'est compliqué à calculer. Enfin, on peut calculer ça en salaire, on peut calculer ça en numéraire, on peut calculer... Donc, comme on a des contrats qui sont de plein de durées différentes, enfin, c'est assez... On n'a pas tout à fait réussi à le faire, mais on a compté, on est à, je sais plus, 53, 47, quoi, un truc comme ça, selon comment on le calcule.
Encore un petit effort, mais c'est pas mal.
C'est ça.
Aurèle, vous avez vu le film, bien sûr.
Ah ben, j'ai vu et beaucoup apprécié le film, et ce que je disais à Rémi tout à l'heure, c'est que la voix de la petite fille, l'actrice qui joue la petite fille est remarquable.
Oui.
Et je trouve qu'on y croit totalement à son combat tout au long du film. Et moi, ces décors, ces grands espaces, et puis cette conquête de liberté de cette petite fille en même temps que cette conquête de l'espace au fur et à mesure, ça marche super bien. Et d'ailleurs, j'étais très jaloux parce que les équipes techniques, je me rappelle que Frédéric Chailloux, le réalisateur technique, essayait de chercher toutes les images qu'il pouvait de Calamity au fur et à mesure en disant, regarde comme ça fonctionne bien, là, regarde. Il parlait de trucs techniques que j'ignorais totalement. Je comprenais pas.
Salomé Boulven, c'est la gamine qui a fait la voix de Calamity. Ouais. C'est vrai que quand on l'a vu au boulot travailler à la barre, quoi, parce qu'on fait une sorte de pièce radiophonique avant de faire le film. Ouais. On enregistre les voix avant de faire l'animation. Et c'est pas du doublage pour nous. Et voilà, cette gamine qui avait pas d'expérience, qui a jamais travaillé, jamais fait un seul film, dirigée par Céline Ronté, qui est la directrice qui, elle, par contre, a beaucoup d'expérience dans le doublage et dans la création de voix. Et elle nous a bluffé plusieurs fois à 10 ans. Il faut se rendre compte de ce que c'est que d'enregistrer un film à 10 ans. Enfin, c'est du boulot, quoi. Il faut c'est des heures de non, c'est pas bon, reprends. On essaie d'obtenir ce qu'on veut, etc. Et elle s'est vraiment super bien débrouillée.
Et vous, Aurèle, pour les voix, comment ça s'est passé sur Joseph?
Parce que là, c'est un domaine que vous maîtrisez pas du tout, contrairement au dessin.
Enfin, oui,
c'est là, pour le coup, franchement, c'est neuf, quoi.
C'est tout à fait neuf. Après, moi, je suis assez passionné par le son, mais ce qui ne fait pas de moi quelqu'un d'expérimenté, mais la musique, le son, la radio, etc. J'étais en studio avec les acteurs. On a fait donc comme Rémi, on a enregistré toutes les voix à l'avance et on a créé cette pièce radiophonique sonore. J'avais la chance d'avoir des acteurs force de proposition, très très investis et énormément force de proposition sur leur personnage et qui étaient vraiment mus par l'envie de créer ces personnages. D'ailleurs, beaucoup, au début, avaient un peu de crainte en disant « moi, j'ai jamais fait de doublage ». Donc, il a fallu qu'on leur explique que c'était pas du doublage, mais de la création de personnages. Mmh. Et à partir de ce moment-là, Sergi López n'avait jamais fait d'animation. Et parce que il s'est senti, c'est le côté pièce radiophonique qui l'intéressait, et la création vraiment de ce personnage qui l'intéressait.
Ça veut dire que votre dessin, c'est parfois adapté à la voix ?
Ah, totalement, oui, totalement.
Vous aussi, Rémi Chaillet, vous définiriez comme ça.
Ah ben c'est ça, enfin, en fait, il faut imaginer que les animateurs travaillent avec les voix des acteurs et qu'ils ont ça au casque, ils l'entendent image par image, ils peuvent entendre les voyelles et machin, et ils interprètent, c'est-à-dire que si l'acteur a fait une petite inflexion de voix, ils peuvent correspondre à un petit dessin, voilà. Donc c'est toujours une, et plus c'est coordonné, plus ça marche, c'est-à-dire que tout d'un coup la magie opère.
Pas de grands films d'animation, de grands films tout court qui sortent. Le vôtre, Joseph Aurel, sort mercredi prochain, et le vôtre, Calamity, une enfance de Martha Jane Canary, sort le 14 octobre. Je rappelle qu'il a eu le Grand Prix Annecy et que vous étiez en sélection à Cannes. On se retrouve.
Et les films d'animation, c'est pas que pour les enfants.
Voilà, exactement. Voilà. On se retrouve après Bruce Springsteen pour parler des sorties.
Moi, j'adore son sourire.
Oui, on a vu comme tu le dévores des yeux.
C'est pas vrai.
Quoi, il est bel homme.
T'as qu'à l'épouser, toi.
Moi, ce que je préfère, c'est sa moustache.
Mais vous pensez qu'à vous marier ou quoi?
Vous trouvez pas ça fou, sa vie? Vous imaginez si nous aussi on pouvait faire tout ça?
And send it in my letter to you.
Pour parler des apparences de Marc Fitoussi, Laurent à Vienne, sa microscopique communauté française, jeune couple en vue, Ève et Henri, lui est chef d'orchestre de l'opéra, c'est Benjamin Biolay, et elle, c'est Karine Viard, travaille à l'Institut français. Une vie apparemment sans fausse note jusqu'au jour où Henri succombe au charme de l'institutrice de leur fils. Un film aux apparences d'un Chabrol, mais bien moins acide, moins pervers dans sa critique de la bourgeoisie, disons plus facile et plus attendu, malgré l'interprétation tout en nuances de ces deux interprètes, Benjamin Biolay et Karine Viard. Jusqu'à cette deuxième partie, la revanche de la femme trompée, à laquelle, par gourmandise, le réalisateur ajoute une autre intrigue policière. La femme est harcelée par l'amant d'un square. Ils sortent tout juste de prison, c'est d'ailleurs le seul autrichien du film. Il la traque, elle traque son mari dans une série de rebondissements invraisemblables. Trop de genre, comédie, drame, thriller. Dans un seul film, on est loin de Claude Chabrol.
Oui. Est-ce que je vais avoir la cruauté d'ajouter quelque chose? Je ne suis pas certain. Non, mais je crois qu'il vaudrait mieux pas, parce que là, franchement, le cadavre est à terre. Je sais pas. Dire que il faut pas se fier aux apparences dans la vie. Hein, on le dit. Bah, dans le cas présent, il faut surtout pas. Si, si. Voilà.
On va parler de ce troisième volet de la trilogie après Chained et Beloved, c'est Stripped de Yaron Shani, israélien. Alice et Ziv sont voisins dans un quartier de Tel Aviv. Alice vient de publier son premier roman, particulièrement remarqué. Lui est un ado passionné de musique, mal à l'aise avec l'expression de ses sentiments. Alice pense que Ziv pourrait être le cœur d'un projet documentaire, mais tout ça va prendre un tournant inattendu.
Oui, alors c'est bizarrement le troisième volet d'une trilogie de ce cinéaste israélien, oui. Mais c'est le premier en termes de chronologique.
Ah d'accord. Voilà.
Oui, c'est pas pourquoi on a comme ça. Alors,
pourquoi ils sont maintenant alors?
Oh, bah, écoutez, je ne me posais pas des questions aussi indiscrètes. Il y avait eu d'abord Schneid, qui était le plus réussi le plus réussi des trois, Beloved qui était le moins réussi à mon sens. Alors peut-être entre les deux, il y a ce volet là qui est consacré comme toujours dans cette trilogie aux relations hommes-femmes. On reste quand même circonspect pour ce volet là devant plus à la limite la forme que le fond, bien entendu, c'est-à-dire que comme souvent dans ces films, il mêle la réalité et la fiction, ce qui est pourquoi pas une démarche intéressante. Et là, la transcription en quelque sorte de ça, c'est que il floute les corps de ces acteurs nus non professionnels. C'est une drôle de méthode quand même pour décrire la vérité, la réalité. On voit bien tout ce qu'ils voudraient faire passer par ce biais-là, mais dont le résultat est assez curieux. Alors pour autant, il reste des sujets absolument essentiels qui touchent la société israélienne, mais pas seulement, hélas, la société israélienne, comme le viol notamment. Du coup, c'est peut-être ça qui quand même doit l'emporter dans la façon dont on regarde ce film.
Ondine, du cinéaste allemand Christian Petzold. Le film démarre sur la fin d'une liaison. Elle, Ondine, ne la supporte pas. Elle lui dit qu'elle mourra s'il la quitte. Ondine, dans la mythologie, ne survit pas sans l'amour d'un humain. Et dans le Berlin, même dans le Berlin du XXIe siècle, il faut accepter cette proposition, cet argument de tragédie, ce romantisme délirant qui ne sied pas vraiment à notre époque. Le film en fait le pari insensé. Ondine, après cette rupture, rencontrera un autre homme, un plongeur, qui explore les fonds des lacs, un amour partagé cette fois entre deux êtres vulnérables, mais un amour menacé par les circonstances. On n'en dira pas plus. Et de cette suite faite de thrillers et de merveilleux, un grand film sur la passion terrestre et divine, même alourdi parfois par ses maquettes de Berlin. Mais bon, je le comprends, c'est puisque c'est ça la racine du Marais et de cette mythologie. Ce film est porté par un sublime duo d'acteurs, Paul Habir et Franz Rogowski.
Oui, alors on est dans le conte et le mythe, hein, vous le disiez très bien. Alors tout est permis dans ces cas-là,
oui.
À condition peut-être quand même de ne pas tomber dans l'incongru. L'incongru pour moi, c'est quand même par exemple le début du film où un aquarium se brise pour signifier la face aquatique de l'histoire. Bon, là, j'avoue quand même que là, c'est un peu interloqué. Bon, et puis le styliste Petzold m'a semblé perdre de vue qu'il raconte d'abord et avant tout une passion, hein, qui devrait tout emporter sur son passage et nous avec, évidemment, les spectateurs. Or moi, cette émotion, je ne l'ai pas assez ressentie. Je l'ai trouvée contenue, repoussée, avec une cérébralité donc on connaît bien. Petzold, mais sans jeu de mots, il refuse réellement de s'y plonger dedans. Et au fond, moi, j'ai trouvé cette Ondine trop sage, et c'est un vrai paradoxe.
C'est vrai qu'on plonge ou pas? Moi, j'ai complètement plongé. Un film d'animation pour vous, messieurs, mais vous ne l'avez pas vu, vous étiez en promo, vous êtes en promotion. Il s'appelle Ailleurs, d'un Letton qui s'appelle Glyns Zibalodis. Il aurait fait tout seul. Devant son ordi, l'histoire, un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre après un accident d'avion. Au loin, une grande forme menaçante s'approche de lui. Pour la fuir, il se réfugie à l'entrée d'une caverne où l'étrange forme ne parvient pas à le suivre. Dans cette caverne, le jeune homme trouve une carte et une moto qui le poussent à prendre la route pour essayer de rejoindre de l'autre côté de l'île, le port et la civilisation. Il a voulu trouver des choses faciles à animer, une mobilette, peu de personnages et une île déserte. Et sa grande inspiration, c'est Miyazaki.
Oui, alors alors, il est seul aux manettes. Bon, mais je crois qu'il faut dépasser ça pour dire d'abord la beauté visuelle de l'ensemble, parce que c'est au fond ce qui compte quand on est dans la salle de cinéma face à l'écran. Alors, on pourrait effectivement multiplier les références littéraires et cinématographiques plutôt écrasantes. Je crois qu'il vaut mieux rester au niveau de ce que lui nous montre, notamment avec une transcription finalement très intelligente de cet univers qu'il connaît générationnellement très très bien, qui est le jeu vidéo. Alors, on sent l'influence avec, par exemple, ce personnage qui avance comme ça. Parfois, on pourrait presque chercher la petite manette sur le fauteuil et faire avancer le personnage. Mais évidemment, ce que ça raconte, c'est que c'est une quête initiatique. C'est là où on pense évidemment à Miyazaki, finalement. Mais le film fait tellement la part belle aux éléments, à la nature, avec une profondeur de champ, notamment, qui est tout à fait sidérante. On aurait aimé un peu plus de scénario, par exemple, un peu plus d'histoire. Il faudra peut-être que le jeune homme accepte de travailler avec d'autres gens, donc on attend bigrement le prochain film.
Qu'il trouve de l'argent, surtout.
Par exemple.
Et un grand producteur comme vous, Rémi Chahi. Sing Me a Song, c'est un doc.
Oui.
Le jeune Peyanki vit et étudie dans un monastère traditionnel au Bhoutan. L'arrivée récente d'Internet entraîne d'importants bouleversements. Les rituels quotidiens des moines entrent en concurrence frontale avec la nouvelle addiction au smartphone. Peyanki se passionne pour les chansons d'amour et tombe amoureux sur WeChat d'une jeune chanteuse. Méditation, contre-connexion ou comment les pires travers de l'Occident phagocytent la vie spirituelle au Bhoutan. C'est tellement invraisemblable, notamment les scènes de jeunes moines accros aux jeux vidéo, qu'on dirait une fiction, mais c'est un doc. On espère que rien n'est truqué ni rejoué. Et bizarrement, on ne ressent pas beaucoup d'empathie pour ce jeune garçon perdu qui quittera ses montagnes pour retrouver sa jeune chanteuse en ville, à cause, sans doute, de cette faible tension dramatique qui parcourt le film. Dommage, le sujet était a priori passionnant. On va passer à un autre doc, cette fois consacré à un grand couturier français. Il s'agit de Pierre Cardin et c'est un doc de David Ebersol, Todd Hughes et Todd Hughes.
Ouais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un documentaire aussi complaisant à l'égard de son sujet. Longtemps, longtemps. Le couturier fait ici l'objet d'un culte. Alors les officiants s'appellent Sharon Stone, Philippe Starck, Jean-Michel Jarre en compagnie. Donc on est vraiment dans le haut du gratin, bien sûr, qui viennent tous dire leur absolue admiration de l'artiste. Mais alors ça donne un documentaire sans âme, sans projet autre que turiféraire, où le cinéma n'a évidemment aucune place. Alors écoutez, on lui préférera très très largement le foutraque Cyril contre Goliath, qui est sorti en salle récemment et qui raconte une toute autre histoire, celle de Pierre Cardin dans le Luberon. Et là, croyez-moi, la statue est un peu plus égratignée. Je pense que Pierre Cardin peut être égratigné, ça ne fera pas trop vaciller effectivement cette statue du commandeur. Voilà.
Laurent, il faut que j'en aille au cinéma. Est-ce qu'on va parler d'Éléonore?
Non, écoute, non, allez, on en parle pas, allez, on n'en parle pas. Allez, c'est décidé, voilà.
Présence, grâce, douceur, entre Mocky et Duras, Wells et Sautet, Truffaut et James Bond, ce relais, cette voix, cette singularité, Michael Lonsdale, ce monstre secret comme l'a si bien titré Libération, est mort cette semaine, Laurent, 89 ans, 200 films.
Oui, Monsieur Tabar, des baisers volés, est mort, et Monsieur Tabar est marié à Delphine Seyrig. Et à nos yeux, cela suffirait amplement à remplir d'extase une vie d'acteur. Alors, il a fait d'autres films, beaucoup d'autres films, Lonsdale, même des téléfilms, dont ce Bartleby, que je tiens à signaler, réalisé par oui. Maurice René, et qui existe en ce moment en DVD dans une belle collection de L'Œil du Témoin. Alors, voir et revoir Lonsdale, c'est une nécessité absolue. Et puis, bah tiens, nous, on va l'écouter.
Et
on,
il était chez nous, je veux dire, on aura tout vu, en voilà. 2012.
Exactement.
La première fois que j'ai mis les pieds au cours de Tania Balachova, elle passait Roméo et Juliette, elle jouait Juliette. Ah, j'ai regardé ça avec émotion, parce que c'était beau, elle était belle.
Est-ce que vous étiez amoureux de Delphine Seyrig?
Eh bien, pour dire la vérité, oui.
Nous n'avons rien à nous dire. Nous sommes les mêmes.
Je crois ce que vous venez de dire.
Les histoires d'amour, vous les vivez avec d'autres. Nous n'avons pas besoin de ça.
Michael Lonsdale, c'est troublant de dire à une partenaire de cinéma ce qu'on pense dans la vraie vie, finalement.
Eh ben oui, ça correspond à ce que mon cher père spirituel, qui était un père dominicain et qui me connaissait profondément, m'a dit, vous ferez au public des confidences que vous ne pourrez jamais faire à personne dans la vie. Non, c'est curieux ce métier.
On évite la psychanalyse?
Oui, mais complètement, oui.
Ça veut dire que votre filmographie vous raconte, alors?
Oui, en partie, mais on implique de soi dans chaque personnage, bien sûr.
C'est-à-dire, vous avez un côté Duras, un côté Mocky, c'est pas évident.
Oui, bah c'est très bien. Il faut aller d'un extrême à l'autre. Mmh. Comme c'est comme ça, quoi. J'ai fait du boulevard, et puis j'ai fait des choses. J'ai un Eustache, la sale histoire, par exemple aussi. J'ai un plaisir fou à faire ça. Et puis voilà, j'aime bien ne pas être classé. Et je me suis souvent battu. Parce qu'après le Chacal, je m'ai proposé des commissaires de police pendant 3 ans. Après le nom de la rose, les religieux. Mais ça continue encore. Je crois que je suis le seul acteur qui ait joué autant de religieux.
Il était merveilleux, il s'appelait Michael Lonsdale. Ouais. On va terminer l'émission avec les cadeaux à nos deux invités, Laurent.
Mais oui, alors, d'abord à Aurel, notre petit doigt nous dit que la politique vous intéresse, Aurel, évidemment. Alors on a pensé à vous avec ce documentaire, La Cravate. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Ah non,
ah, génial.
Alors très bien, Étienne Chaillou et Mathias Théry en sont les auteurs, c'est publié par Arte Éditions. Ils avaient fait auparavant La Sociologue et l'Ourson, et cette fois ils se sont bigrement intéressés à un jeune militant du Front National dans le nord de la France. Et ils en décrivent le parcours, ils interrogent cette vie.
Ils en font un récit balzacien.
Oui, absolument.
C'était très étonnant.
Avec cette étrangeté des DVD, il y a 2 heures de bonus pour un film qui dure 1h30. C'est formidable. Ouais, il y a plus de bonus que de films. Mais voilà, ça c'est la magie du DVD. Mais c'est très bien. Effectivement, notamment le film commenté par les réalisateurs, ce qui est toujours, toujours une belle façon, effectivement, de prolonger un film.
Il y a une mise en abîme, un tournage. Ensuite, on tourne lui en train de regarder les images qui étaient tournées sur lui, tout en faisant ce récit. Non, mais c'est absolument remarquable.
Il y a une vraie volonté éditoriale, en tous les cas, un vrai propos. Voilà.
J'avais vu passer, mais je ne l'ai pas vu.
Arte Éditions.
Tout comme le cadeau que nous vous faisons, et évidemment c'est un conseil à nos auditeurs, est publié aussi par Arte Éditions, Retombons en enfance avec Le Chien Pourri, que vous connaissez peut-être, Rémi Chaillé. Et là c'est le Noël de Chien Pourri qu'on a l'honneur et l'avantage de vous offrir, avec d'autres choses aussi. Chien Pourri retourne sur la Lune, ou Chien Pourri à l'Elysée, même, voilà. Donc 6 histoires plus une en bonus, c'est chez Arte Vidéo. C'est un vrai best-seller, si on peut dire, chez les enfants. Ça vient de l'école des loisirs, et c'est une belle adaptation faite par David Durand avec Vincent Patard et Stéphane Aubier, animateur bien connu. Voilà, donc, et alors on dit quand même que le 7 octobre, donc très prochainement, il sort le premier film, le premier long métrage de Chien Pourri, qui s'appelle Chien Pourri, la vie à Paris.
Joseph sort mercredi prochain, lui, et Calamity le 14 octobre. On signale pour Joseph l'album à l'usine édition et Joseph le making of, et pour Calamity, The Art of Calamity de Caroline Vier et Karine Baudet aux éditions Maybe Movies, plus quoi d'ailleurs,
le roman chez Bayard, qui sortira juste en même temps que la sortie.
Et plus aussi, Joseph, le making-of. Mais allez voir, s'il vous plaît, ces deux films. D'accord. Grande recommandation.
Oui.
Merci, on vous laisse les clés du générique. Au revoir.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma. Il y a des réalisateurs et des acteurs. Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs. Les prises de vue sont des prises de son. Georges Delerue a écrit les musiques du générique. Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez. Christophe Magère s'est occupé de la préparation. C'est une émission réalisée par Laurent Thomas et Claire Destacan. Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas. Et moi, Aurel, j'y étais.
Et moi, Rémi Chaillé, j'y étais.